Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Robière.
Et Nicolas, donc on retrouve Nicolas qui est aide-soignant. Rebonjour Nicolas.
Bonjour Christelle.
Donc vous êtes favorable à ce projet de loi qui doit être adopté ce soir en Conseil des ministres et qui prévoit de nouvelles restrictions sanitaires ?
Oui, je suis favorable, mais je pense juste que le timing est mauvais. Il aurait beaucoup mieux valu instaurer ce pass sanitaire juste après les restrictions. Le gouvernement aurait pu dire, bon ben voilà, on va réouvrir, mais par contre, pour ça, on va faire un pass sanitaire. Et là, je peux vous garantir que les gens, ils auraient été beaucoup plus adhérents.
Mmh. Oui, en fait, à ce moment-là, il y avait une grosse différence qui était le variant Delta, en fait.
Le variant Delta existait déjà, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez pris la mesure,
il était malgré les alertes. Oui, c'est ça, il était à très très bas bruit. Donc vous pensez qu'ils auraient dû anticiper en fait ? Mais c'est vrai que les Français, ils avaient aussi besoin de ce parfum de liberté à ce moment-là.
Oui, mais justement, ils auraient eu le parfum de liberté avec le pass vaccinal. Alors peut-être qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas non plus assez de doses, je ne sais pas. Mais là, ça va être difficile à faire respecter, j'avoue. Parce que ma foi, la désinformation va beaucoup plus vite que l'information. Vous voyez ce que vous venez de dire, par exemple, sur les myocardites liées au vaccin.
Oui, bah justement.
Il a fallu 160 caractères pour jeter le doute. Il a fallu des semaines pour les scientifiques à démontrer que c'est faux.
C'est ça, c'est donc, une fake news circule toujours beaucoup plus vite qu'une vraie.
Exactement, ça s'appelle le principe de Brandolini. Malheureusement, maintenant, il n'est plus temps d'informer, il n'est plus temps de faire de la prévention, il n'est plus temps d'être pédagogique. Parce qu'on est face à la vague.
Ouais.
Donc, alors autant le pass vaccinal, le pass sanitaire, sur le principe, c'est vrai que c'est pas top, mais là, on n'a plus le choix, tout simplement. Mmh.
Mais dans l'absolu, il vaut toujours mieux convaincre que contraindre, Nicolas.
Dans l'absolu, oui, mais là, il n'y a plus le temps. Mmh. C'est-à-dire qu'au moins la vague, c'est comme si vous avez un tsunami qui arrive sur vous. Soit vous dites aux gens, montez en haut des immeubles, ou soit vous leur expliquez en quoi la vague, ça peut être dangereux, etc. Et vous avez toujours des gens sur la plage pour vous dire, mais moi, je suis jeune, je suis en bonne santé, je sais nager, donc je ne vais pas mourir. Mmh. Mais c'est trop tard pour ça. C'est trop tard maintenant.
Mmh. Nicolas, donc, vous êtes aide-soignant.
Oui.
Vous êtes vacciné depuis quand ?
Alors, je suis vacciné depuis 2 mois, parce que j'habite au Maroc, mais je suis revenu en France et je me suis fait vacciner avec Pfizer. Mmh.
Mais vous travaillez en France ou vous travaillez au Maroc ?
Non, je travaille au Maroc. Je travaille au Maroc. Et, bah, et là, je peux vous dire que ça ne se passe pas vraiment pareil. Hein.
Et bien, bah justement, racontez-nous, ça m'intéresse énormément. Quelle est la situation au Maroc en ce moment, Nicolas ?
Alors, au Maroc, là, depuis, on va dire, une semaine, on est en pleine courbe exponentielle. Mais alors, vraiment, on est vraiment dans la phase vraiment montante très vite. C'est-à-dire qu'on a, grosso modo, ça double tous les 2-3 jours. Mm-hmm. C'est assez inquiétant. Au niveau des hôpitaux, pour l'instant, on n'a pas encore les répercussions.
Oui, parce que c'est encore un peu tôt. Il y a toujours un délai au minimum de 15 jours, oui.
Et là aussi, il y a beaucoup de désinformation où les gens ils disent les chiffres sont trafiqués parce que ça va être la fête du mouton. Alors, c'est pour pas que les gens bougent. Mais malgré tout, c'est un fait. Moi, je connais beaucoup de personnes j'en connais quelques-unes qui sont contaminées récemment. Mm-hmm. Et qui sont même contaminées pour la deuxième fois.
Pour la deuxième fois, en combien de temps ?
Un ami qui vient d'être contaminé, il l'avait déjà attrapé l'année dernière,
il y a un peu moins d'un an, oui. Donc probablement il n'avait plus d'immunité. Quelles sont les restrictions au Maroc en ce moment ?
Alors, il y a toujours le port du masque obligatoire. La circulation entre les grandes villes est interdite, sauf si on a le pass vaccinal. Mmh. Et là, on parle bien de pass vaccinal. Et sinon, la vaccination est gratuite, ouverte à partir de 30 ans pour le moment.
Oui. Et quel est le pourcentage vous pouvez me dire à peu près, Nicolas, quel est le pourcentage de Marocains qui a déjà reçu au moins une dose ou pas ?
On est, alors, de tête comme ça, on est environ dans les 40%.
Oui, quand même. Hein. Quand même la situation n'est pas aussi catastrophique qu'en Tunisie, par exemple.
Non, du tout, ça n'a rien à voir. Ça avance lentement parce que les moyens ne sont pas là non plus pour, vous savez, les pays comme ça, du Maghreb, tout de l'Afrique, on a beaucoup de mal à avoir les vaccins parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de les acheter. Mais par contre, ce qui m'a fait bizarre et ce qui m'a choqué quand même au début de la vaccination, c'est que moi j'ai un voisin qui a 80 ans, donc il a été dans les premiers à se faire vacciner, et il est bénéficiaire de l'Aramed, c'est-à-dire c'est une CMU light, on va dire. Mmh. Où il a ses médicaments pour le cœur gratuitement ou pour le diabète. Et là, on lui a dit, si vous ne faites pas le vaccin, vous n'aurez plus vos médicaments.
D'accord.
Et ça a été radical. Hein. Et là, je peux vous dire que tout le monde s'y met.
C'est pour ça que vous nous dites que le gouvernement français n'est pas allé assez loin, assez vite.
Alors, pas assez loin, parce que du coup, pas assez loin, je ne sais pas. Parce que là, franchement, cette méthode-là que je viens de vous raconter, je suis complètement contre. C'est plus, on n'est plus du tout dans la santé publique. Hein. Moi, en tant que soignant, je dois soigner tout le monde. Je n'ai pas à choisir qui je vais soigner, qui je ne vais pas soigner. Ça, c'est évident. Par contre, effectivement, le pass sanitaire, je vous dis, s'il avait été mis tout de suite en place après la fin des, juste à la fin des restrictions, ça, vous savez, dans la tête, ça aurait pas fait pareil en disant « Ok, les restaurateurs, vous allez pouvoir ouvrir à condition que vous puissiez vérifier les passes sanitaires. » Et là, je vous garantis qu'ils auraient été ravis d'ouvrir.
Nicolas, restez avec nous. Il y a Annick aussi qui nous appelle de Nancy. Bonjour Annick.
Oui, bonjour, bonjour. Alors écoutez, je n'ai pas pu entendre le début de l'émission.
Écoutez, Nicolas nous disait qu'il était très favorable au pass sanitaire, avec toutes les restrictions qui vont avec, et que le gouvernement aurait même dû prendre ses mesures au moment du déconfinement au mois de mai. Voilà.
Oui, donc on a affaire à une personne qui est pro-vaccination.
Oui, ce qui n'est pas votre cas, semble-t-il.
Et donc ce fameux pass sanitaire, c'est une évidence que c'est une atteinte aux libertés, mais à la liberté des non-vaccinés. Ah bon. Alors, je pense aussi que les pro-vaccinations vous diront qu'ils sont libres de refuser d'être contaminés par les non-vaccinés. Mais il y a un petit point de détail quand même. Hein. Alors, un non-vacciné positif va contaminer un vacciné qui peut attraper le virus et par là même contaminer les non-vaccinés et les vaccinés. Moi, j'ai l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue.
Bon. Oui, mais ils sont pas. La contamination n'a rien à voir. Hein. Si vous êtes vacciné ou pas vacciné, vous n'allez pas développer de forme grave. Oui, c'est quand même une différence assez essentielle, Annick.
Oui, bien sûr. Mais c'est ce qu'on nous dit. Hein. On nous dit qu'effectivement, les non vaccinés auront des symptômes allégés. Mais ce qu'il y a,
pourquoi vous dites c'est ce qu'on nous dit?
Oui, c'est ce qu'on nous dit. Mais parce non, je ne mets pas ça en doute. Hein.
Ah bon, voilà, ma question.
Non. On acte. Bon, mais au regard de 0,05% de décès, symptômes allégés ou pas, il n'y a pas de quoi transmettre cette peur panique qu'éprouve une grande partie de la population. Hein? Bon, alors les vaccins. Alors la France, l'Europe n'ont opté que pour les vaccins à thérapie génique. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, personne, médecin, scientifique, chercheur, etc., est en capacité de savoir quels sont les effets secondaires au long terme. Et avez-vous remarqué que les pro-vaccinations ne parlent que des effets secondaires à court terme? Bon, alors écoutez, de cela, je pourrais dire, on s'en moque.
Après, la technique de l'ARN messager, Annick, elle est développée par les scientifiques depuis une bonne dizaine d'années. Hein. C'est la première fois qu'on a un vaccin de ce type, mais elle est développée. C'est quelque chose qui est déjà connu. Et pour l'instant, il n'y a pas eu d'effet à long terme de ce que l'on sait. On n'en a vu qu'un.
Justement. Alors, c'est connu. Vous me dites que c'est connu, mais pas pour ce type de vaccination. Cette vaccination a été mise, si vous voulez, en circulation.
Technique était déjà prête, en fait.
Oui, mais non. De toute façon, on peut entendre différents scientifiques, entre autres, je vais citer Alexandra Orion-Code, et vous allez me dire, ah oui, non, pas celle-là, ben si, quand même, vous l'écoutez.
Eh oui, mais chacun, c'est le problème, c'est qu'on a l'impression que chacun entend un peu ce qu'il veut entendre.
Je fais un mixte. Bon. Et j'écoute aussi beaucoup d'autres personnes.
J'aimerais bien que Nicolas dialogue un petit peu avec vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Annick, Nicolas?
Alors déjà, thérapie génique, c'est faux. C'est pas du tout une thérapie génique. C'est clair et net. Des effets secondaires, comme vous le dites, la technique de l'ARN messager, ça fait pas 10 ans que c'est en étude. Ça fait 30 ans. Et ça fait un peu plus de 10 ans que c'est en expérimentation chez l'être humain. Et avant, c'était des expérimentations animales. Je vous dis, ça fait 30 ans. Donc, dire qu'on n'a pas assez de recul sur 30 ans, c'est quand même incroyable. Et vous savez, c'est les mêmes personnes qui vont défendre l'ivermectine sur la base d'un
effet... Alors l'ivermectine, c'est un traitement dont on a parlé, mais qui ne marche pas sur l'homme, jusqu'à preuve du contraire.
Il y a eu un essai qui semble montrer une certaine efficacité, un essai qui a été fait sur 18 hamsters femelles.
On est d'accord.
Et là, on dit, c'est ce qu'il faut utiliser sur 18 hamsters. C'est quand même incroyable par rapport à un vaccin qui a été testé sur 45 000 personnes et qui est maintenant injecté à je ne sais plus combien de milliards de personnes, 3-4 milliards de personnes.
3 milliards, je crois.
C'est complètement disproportionné, quoi, de raisonner ainsi.
Annick.
Oui, alors, cet interlocuteur dont j'ai oublié le prénom parle de généralité en ce qui concerne la recherche de l'ARN messager, de la thérapie génique. Là, on parle d'un vaccin qui a été mis à jour tout à fait récemment et pour lequel on est encore au stade expérimental. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui sont vaccinées sont, si vous voulez, font partie de l'étude en question. Et ça, vous pouvez me dire, ou dire même, tout ce que vous voulez, les effets secondaires au long terme ne sont pas connus, absolument pas connus pour cette vaccination. Je ne parle pas des traitements ARN, machin, etc., et tout le reste. Pour cette vaccination proprement dite, mais d'ailleurs, lui-même le reconnaît.
J'entends votre scepticisme en tout cas. Merci Annick d'avoir appelé, merci à Nicolas. On fait une petite pause et dans un instant, on va poursuivre ce dialogue avec Jean-Claude.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Robière.
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Robière.
Le débat se poursuit autour des nouvelles restrictions sanitaires, du pass sanitaire. Mais j'attire aussi votre attention sur la suite. Dans quelques minutes, vous allez entendre le témoignage en forme de coup de gueule d'une soignante en EHPAD qui va nous appeler du Sud-Ouest pour dénoncer le manque de moyens pour s'occuper correctement des pensionnaires. Et j'aimerais bien que vous nous appeliez aussi, si c'est votre cas, si vous travaillez en EHPAD, faites le 3210 dès maintenant. Jean-Claude est en ligne. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. Moi je vous appelle parce que les anti-vaccins me pourrissent un peu la vie, quoi. Ils ont décidé de ne pas se vacciner, ça les regarde. La dame d'avant disait on ne connaît pas les résultats de la vaccination. On connaît une chose, on connaît tout ce qui nous reste après le Covid. Ouais, il y a des gens qui ont des douleurs partout, il y a des gens qui ont des maladies respiratoires avec des problèmes respiratoires. Et alors à long terme, on connaît un truc, on sait que c'est la mort. Donc effectivement, on en connaît plus sur la maladie que sur le vaccin. Mais ces gens-là, ils décident de ne pas se vacciner. Au nom de la liberté, mais au nom de ma liberté aussi, moi j'aimerais qu'ils se vaccinent parce que j'aimerais pouvoir sortir le soir, j'aimerais pouvoir continuer à vivre sans avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et des gens qui ont une voiture et qui ont un taux d'alcoolémie supérieur à la moyenne, qui ont un accident, l'assurance ne prend pas en charge. Un motard qui n'est pas équipé, s'il a un accident, l'assurance ne prend pas en charge. Ces gens qui ont décidé de ne pas se vacciner, ils n'ont qu'à signer une décharge en disant « je ne veux pas être vacciné ». Et s'ils ont des problèmes, ils paieront leurs médicaments, ils paieront leur hôpital, ils paieront la réanimation. Et puis à ce moment-là, ils s'assumeront complètement et ça sera leur liberté.
Alors là, voilà. Vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que le gouvernement.
Ah mais c'est quand même incroyable ce genre de choses, quoi. On a mis la ceinture de sécurité obligatoire dans les voitures. Quand on a commencé à la mettre, on a dit « oh, c'est contraignant et tout ». Et puis quand on a vu les résultats, on a dit « bah c'est quand même bien, quand même, parce que j'ai peut-être deux côtes cassées sur mon accident, mais je suis vivant, quoi. Si j'avais tapé dans le volant,
oui, mais tout ça, vous voyez bien, tout ça est extrêmement rapide. Effectivement, le tour de vis, il est extrêmement rapide. La sécurité routière, c'était un sujet au long cours.
Ben à quelle vitesse avance le virus? Il est plus rapide que les décisions. Donc il faut y aller.
Oui, bien sûr, il y a une course contre la montre, ça c'est sûr.
Il y a l'eau qui monte, il faut vite apprendre à nager parce qu'il va falloir avancer. Donc, ou alors on attend et puis on espère que l'eau va descendre d'un seul coup. Ça va pas marcher. C'est un mauvais avec les problèmes d'inondation. Mais je veux dire, ça arrive, il faut bouger, on ne peut pas rester comme ça à regarder les choses se passer, quoi. Il va falloir qu'on avance. Et si on laisse des gens, quoi, si des gens décident qu'au nom de leur liberté, il faut qu'ils peuvent se permettre de contaminer d'autres gens, ils n'auront pas été protégés et ça sera passé comme ça, je trouve ça complètement aberrant, quoi.
Bon, après, ils ont le droit de protester et de dire que c'est une restriction de leur liberté, hein. Il faut aussi les entendre.
Bien sûr que je les entends, mais qu'ils aillent jusqu'au bout. Voilà, parce que moi, c'est vous et moi, on va payer pour ces gens qui ne sont pas vaccinés. Moi, je paye mes cotisations, et si c'est pour soigner quelqu'un qui s'est défendu comme il a pu et qui a pris toutes les précautions pour ne pas attraper la maladie et qu'il est en hôpital, eh ben c'est normal que ma sécurité sociale elle paye. Mais bon, le mec qui a décidé que c'était comme ça, s'il décide de sauter sans parachute, à eux de savoir comment atterrir, c'est eux que ça regarde.
Restez avec nous, Jean-Claude. Il y a aussi Robert qui souhaite intervenir, qui est à Strasbourg. Bonjour, Robert.
Oui, bonjour. Tout simplement Christelle, voilà.
Oui, je vous écoute.
Ben écoutez, moi je suis tout à fait, je donne une opinion hein, qui est tout à fait personnelle. Je suis indigné, même outré dans une certaine mesure, parce qu'en réalité c'est assez facile de transférer toute la faute aux autorités, etc., etc. Nous avons tout à notre disposition. Nous avons des centres, nous avons une chance absolument énorme d'avoir un vaccin gratuit, des tests Covid, etc. Et puis les gens, évidemment, donc n'en veulent pas. Alors je pense qu'il faut aussi relativiser le nombre de manifestants eu égard au fait à tous ceux qui ont été vaccinés et qui s'en portent pas trop mal, puisqu'il n'y a pas trop d'effets secondaires, voire nuls, hein, d'une façon générale. Mmh. Alors, moi je voudrais simplement dire que c'est une question, effectivement, d'éthique personnelle. Moi, je respecte ceux qui veulent pas.
C'est une question très intime, hein, Robert.
Oui, tout à fait. Mais d'un autre côté, ça, c'est une question qui a trait à la société tout entière. Mmh. On offre un vaccin. Bon, ben, c'est, encore une fois, s'ils ne veulent pas se faire vacciner, c'est très bien, mais au moins qu'on leur offre ce vaccin et qu'à ce moment-là, ils signent une décharge avec les conséquences, c'est-à-dire en fait les conséquences pour soi-même, c'est-à-dire en cas d'hospitalisation, ben ma foi, c'est à leur charge. Et comme disait
l'intervenant... Vous êtes sur la même ligne que Jean-Claude.
Voilà, exactement. Et d'autre part, si on met en péril les autres, eh bien ma foi, on assume les conséquences pour tout simplement les autres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et moi, je suis en faveur, et je termine par là, en réalité, du pass sanitaire. Je trouve que c'est tout à fait normal et... pour éviter de s'abstenir de contaminer les autres.
C'est une question de sécurité collective. Hein.
Absolument, absolument. Mais écoute, oui, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que je me réjouis aussi, pour terminer, de voir que, en réalité, maintenant, on commence à avoir des vaccinations ou des centres de vaccination qui se remplissent. Moi, je crois que c'est la raison cartésienne des Français qui fait en sorte que, en réalité, on prend conscience. Eh bien, c'est très bien. Moi, je m'en réjouis beaucoup.
Mmh. Restez avec nous, Robert. On a aussi Louisette. Je pense qu'elle a à peu près le même discours que vous, Louisette. Bonjour.
Ah bon. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, bonjour. Oui, en effet, ce monsieur a très bien parlé. Mmh. Moi, eh bien, pour faire simple, nous sommes allés à un mariage. Le deal, c'était que tout le monde soit vacciné. Nous étions à peu près 100 adultes. Et nous étions tous vaccinés. Mmh. Et il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de malade, il n'y a pas eu... Et ça s'est très bien passé. Bon, évidemment, on ne s'est pas embrassé non plus. Enfin, bref, on a fait attention.
Vous avez quand même fait attention. Oui, il faut quand même... Il ne faut pas oublier de continuer à faire attention.
Voilà. On ne s'est pas embrassé. Et puis c'était une très belle journée. Voilà. Et puis, mes enfants sont vaccinés. Mmh. Donc, mon fils aîné qui est quand même asthmatique...
Oui, voilà. J'imagine que c'était urgent.
Eh ben non, au départ.
Ah mais non, c'est vrai, pour les asthmatiques, c'est compliqué. Oui, effectivement, vous avez raison.
Oui, oui. Mm-hmm. Voilà, mais enfin bon, ça y est, il est vacciné aussi. Et puis, moi, j'habite une petite commune très dynamique. Là, ils ont pratiqué presque 3000 vaccinations.
Vous êtes dans la Vienne, où êtes-vous exactement, Louisette?
À côté de Châtellerault.
D'accord. Et donc, il y a eu un centre de vaccination supplémentaire?
Ah, mais très, très efficace. Moi, c'est mon médecin qui m'a demandé au départ. J'avais dit non, la première fois. J'ai dit, non, j'ai peur. Et puis la deuxième fois, mais oui, vous allez me vacciner. Hein. Et puis ensuite...
Et comment vous a-t-il convaincu?
Je sais que j'ai écouté quand même pas mal les infos. Hein. J'ai écouté beaucoup les médias. Bon, faut trier, hein, parce que certains médias, c'est un petit peu olé-olé. Mais non, je me suis bien renseignée. Puis ma foi, écoutez, moi, quelque chose qui n'a rien à voir. Moi, je participe à un protocole de recherche parce que j'ai une maladie. Je souffre de rhumatisme psoriasique.
Oui.
Et je teste un médicament.
Oui.
Bon, au départ, quand on vous propose ça, ah là, ça vous fait peur un peu. Et puis ma foi, maintenant, ça se passe très bien. Je me fais suivre régulièrement à Tours. Mm-hmm. Et ça se passe très bien. Bon, mm-hmm. Ce qui est à part, hein, madame. Hein. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir avec... voilà. Et puis, écoutez, moi, j'ai mon frère qui habite à Poitiers. Il s'est fait vacciner à Poitiers, aux arènes. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se font vacciner.
Écoutez, depuis qu'Emmanuel Macron a parlé, il y a eu 3 700 000 rendez-vous qui ont été pris sur Doctolib. Ça fait en moins d'une semaine, ce qui c'est comme s'il y avait eu comme un électrochoc, quoi. Comme,
oui.
Voilà. Mais et puis il y a de plus en plus. Donc en général, ils commencent à être saturés là. Les rendez-vous, on les trouve à 10 jours, 15 jours, 3 semaines. Mais il y a de plus en plus de centres qui prennent 100 rendez-vous. Un peu partout, on avait un reportage tout à l'heure à Argelès-sur-Mer, mais dans beaucoup de villes, on voit ça en ce moment.
Oui, oui. Bah, écoutez, moi, j'ai ma belle-fille qui la pratique, qui a fait plus de 500 vaccinations, parce qu'elle est infirmière. Et ma fille qui est infirmière, elle qui est bien, qui a vu ce qui se passait, quand même, m'a dit faites-vous vacciner quand même, dès le départ. Hein.
Voilà. Eh bien, merci. Merci d'avoir témoigné sur RTL. On fait une petite pause, et puis dans un instant, on va entendre Marie qui nous appelle d'Agen.
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Rebière. Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Rebière.
Et avec Marie qui nous appelle d'Agen. Bonjour Marie.
Bonjour Christelle.
Vous nous avez contacté au 3210, vous êtes soignante en EHPAD et aujourd'hui vous avez le sentiment de mal faire votre travail. Expliquez-nous.
Mais du coup, on fait mal notre travail vis-à-vis déjà premièrement du manque de personnel. On nous demande de faire beaucoup de choses, mais le personnel, on le restreint de plus en plus. Donc c'est compliqué. Moi, je travaille en service Alzheimer. J'ai 18 résidents à m'occuper. Donc les personnes Alzheimer, c'est pas des personnes comme vous et moi. Donc il y a différentes démences. Et être deux pour 18 résidents, c'est extrêmement compliqué. Voir l'après-midi, je suis par exemple toute seule pendant 2 heures pour 18 résidents et rien que là, c'est de la maltraitance. Je peux pas m'occuper de tout le monde toute seule en fait. Mais ça, la direction ne l'entend pas en fait.
Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus que deux ?
Ça fait un moment. En fait, il faut savoir que les budgets aide-soignants, c'est l'ARS. En fait, l'ARS établit un budget à l'année par rapport au GIR, en fait, et tout ce qui est dépendance, indépendance du résident. Nous, dans notre maison de retraite, on a droit à 8 soignantes sur une journée. Il faut savoir qu'on est 6.
6 et pourquoi il n'y en a pas 8 en réalité ? Vous êtes dans un EHPAD privé, hein, Marie ?
Oui, on est dans un EHPAD privé. Mais il faut demander à la direction. Parce que restrictions budgétaires. Il faut savoir que c'est des résidences où les résidents payent au plus vis-à-vis de notre étage 3 500 €. Mais je pense que c'est pour une direction, c'est plus facile, du moins. C'est compliqué pour eux de débourser des sous que, voilà, vous comprenez.
J'ai bien compris ce que vous voulez dire. Donc 3 500 € pour que, justement, pour que on ait la chance d'avoir du personnel, a priori, hein, pour s'occuper de nos anciens, surtout dans une unité Alzheimer. Et vous ne comprenez pas, quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est comme si cet argent s'envolait.
Mais c'est ça, mais surtout que, comme je vous disais, c'est l'ARS qui donne ces sous-là à la direction. Donc c'est même pas la direction qui paie avec les sous des résidents notre salaire. Donc on se demande bien ce qui est fait de cet argent-là. Après, le souci, c'est que, à force, la pénurie de personnel, parce que du coup, les filles ne veulent plus venir travailler dans des conditions comme ça, parce que ça commence à être ingérable, en fait. C'est une organisation à force, on ne peut plus. On nous dit que c'est de notre faute si les filles s'en vont, si elles démissionnent, et si même les intérimaires ne veulent plus venir. Mais c'est que moi, je veux bien qu'on m'explique comment je fais pour m'organiser. Et à force, le souci, là, c'est que commence à avoir des gens qui n'y connaissent rien. Je dois former des caissières, par exemple. Les pauvrettes, je comprends que pour elles, c'est compliqué. C'est comme si moi, on me
disait... Attendez, Marie, vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, vous formez des caissières de supermarché pour travailler en tant qu'aide-soignante à l'EHPAD et elles n'ont eu aucune formation avant d'arriver dans une unité Alzheimer ?
C'est tout à fait ça. Le matin, la pauvre fille, elle arrive. Et moi, comme j'essaye de faire au mieux, mais j'explique le fonctionnement de la maison de retraite. J'explique comment on peut faire une toilette. Mais je peux pas expliquer 1 an et demi d'école en une demi-heure à une fille qui n'a jamais fait ça, mis à part de la caisse, quoi.
Et ça, c'est tout à fait légal, ça, Marie.
Ah ben apparemment. Apparemment, parce que
on sait qu'il y a un gros problème de recrutement dans les EHPAD aujourd'hui. On en parle très très souvent hein, sur RTL et pas seulement. Mais là, on arrive quand même au bout d'un système. Vous, est-ce que vous pensez que vous allez tenir dans ces conditions ou vous pensez vous aussi à changer de métier?
Mais on y pensait vraiment à partir, hein. Hélas, parce que moi j'aime énormément ce que je fais. Ça fait 12 ans que je travaille en maison de retraite et en service Alzheimer, j'aime mes résidents comme j'aime mes enfants, vraiment. Mm-hmm. Mais de travailler dans des conditions comme ça, c'est très compliqué. Moi, à la fin de la journée, j'arrive chez moi, je suis en colère parce que j'ai pas pu travailler correctement, j'ai pas pu faire ce que j'ai appris et ce que j'aime faire. Parce qu'on nous demande aussi de faire beaucoup d'animation. On a envie d'être avec eux, mais on n'a pas le temps, en fait. Il faut être partout et on peut pas bien s'occuper du résident.
Bien sûr. Restez avec nous, Marie. Il y a Claude aussi, du coup, qui nous a appelé pour témoigner, elle aussi, qui est infirmière dans la Vienne. Bonjour, Claude.
Bonjour.
Vous aussi, vous travaillez en EHPAD ?
Oui.
Expliquez-nous, vous dressez le même constat que Marie à l'instant ?
Oui. Moi, ça fait 10 ans que je travaille en EHPAD, donc j'ai changé plusieurs fois d'établissement. Actuellement, nous avons 70 résidents dans dans l'EHPAD. On est 13 soignants par jour, 3 infirmières. La plupart du temps, c'est une infirmière toute la journée, de 8h à 20h. Et le soir, moi, quand je débauche à 21h, 21h30, je m'estime heureuse. Et si je demande à récupérer mes heures supplémentaires, parce qu'il ne faut quand même pas pousser non plus, il faut justifier pourquoi vous êtes sortie en retard. Et parce que j'ai pris le temps avec les résidents, parce que j'ai pris le temps de faire...
De faire correctement mon travail, quoi.
Exactement, j'essaye de le faire au mieux. Et c'est pas justifié parce que vous êtes mal organisé. Donc les heures sup, ne sont pas payées. Voilà. Heureusement, au niveau de l'EHPAD, les soignants, on est soudés. Voilà, on est soudés et donc on essaye de donner un coup de main au maximum. Mais c'est de plus en plus compliqué. Les résidents le ressentent. J'ai aussi une unité fermée avec 2 soignants seulement, qui sont là toute la journée de 7h à 20h et c'est les animations et les gens qui sont de plus en plus dépendants. Effectivement, comme disait votre interlocutrice, Marie, on n'a pas le temps de faire les animations. On n'a pas le temps. Donc ils déambulent et au bout d'un moment, et à force de déambuler entre 4 murs, ça s'échauffe et en fin de journée, c'est des fois très compliqué à gérer.
C'est-à-dire, quand vous dites ça s'échauffe et c'est très compliqué à gérer, que voulez-vous dire ?
Avec les résidents, à force de tourner dans l'unité, dans l'EHPAD, de n'avoir rien d'autre à faire que de marcher, forcément dans la tête, ça bouille. Et puis, au moment du repas, le soir, il n'est pas rare que ça se lève sans arrêt au moment du repas. Et puis, ça agace les autres. Et du coup, la mayonnaise, elle prend super bien. Donc, des fois, on les assomme. Sur prescription médicale, enfin, faut donner si besoin.
Oh, mais c'est terrible ce que vous nous racontez là, c'est-à-dire que vous donnez des sédatifs ?
Non, on donne des anxiolytiques, on donne des trucs pour essayer de faire retomber la pression, mais c'est sur prescription médicale. Hein.
C'est fou, alors qu'en réalité, c'est l'organisation du système qui ne fonctionne pas du tout et il y a un manque de bras.
Oui, il y a un manque de bras, oui. Oui, il y a un manque de bras. Et comme disait Marie, la direction, maintenant, il faut faire des animations. Alors, on fait des animations. Mais avec quels moyens humains ?
Mais voilà. Ça leur apporte quand même du bonheur. Vous sentez que ça a un effet positif ou ça ne suffit pas par rapport à toutes les contraintes qu'il y a par ailleurs ?
Qu'est-ce qui leur suffit pas ?
Les animations.
Quand il y a des animations, on les sent un peu plus...
Parce qu'ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin d'être stimulés, ils ont besoin d'avoir des relations humaines, ils ont besoin d'échanger.
Oui, et dans ces cas-là, quand on prend le temps de discuter avec eux, de faire un jeu, même un jeu de petits chevaux, ou de trier des boutons, ou de faire des choses comme ça, on sent qu'ils ressentent qu'on s'intéresse à eux, qu'on les prend en considération, qu'on les considère comme des personnes.
Ils ont besoin d'exister, quoi, tout simplement.
Hein ?
Et vous, Claude, vous vous posez des questions sur votre avenir, parfois ?
Ah oui.
C'est-à-dire ?
D'essayer de former les gens à travailler. voilà, d'être formatrice ou quelque chose comme ça. Enfin, parce que c'est vrai que, comme disait Marie, il y a des intérimaires qui viennent parce que elles cherchent du boulot. Donc, les agences d'intérim, des fois, elles les balancent dans les EHPAD, mais elles arrivent et je fais quoi.
Mais vous aussi, comme le disait Marie tout à l'heure, vous aussi, vous voyez arriver dans des EHPAD des caissières de supermarché qui n'ont pas été formées, qui deviennent aides-soignantes ?
Pas aides-soignantes tout de suite, mais assistantes de vie sociale. Mais bon, assistantes de vie sociale, des fois, elles sont obligées de faire des toilettes, elles sont obligées de faire du soin.
Mais oui, mais le soin, ça s'apprend quand même.
Mais oui, ça s'apprend, c'est un métier. Ben oui, c'est pas pour rien qu'il y a des diplômes d'aide-soignant, qu'il y a des diplômes d'infirmier. Mais ouais.
Ben merci d'avoir témoigné, Claude, et merci aussi à Marie qui nous appelait d'Agen. Merci à vous deux et bon courage. Et puis on vous rappellera pour savoir comment ça se passe. Merci à vous deux. Merci. On fait une pause et puis dans un instant, on va parler du Tour de France, le 108e Tour de France avec le jeune prodige Pogacar. Qu'est-ce qui vous inspire ?
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Rebière. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Robière.
Et on revient sur ce 108e Tour de France avec Nicolas Georgerot qui nous a rejoint, qui est revenu en studio, qui a suivi cette grande boucle pour RTL comme tous les ans. Rebonjour Nicolas.
Rebonjour.
On s'interroge sur les performances de Pogacar, maillot blanc, maillot à pois, maillot jaune. Est-ce que c'est pas trop, même pour un prodige ? Bonjour Arnoul.
Bonjour Christelle.
Soyez le bienvenu alors.
Merci. Bon, écoutez, moi je trouve que c'est un très bel athlète, un jeune athlète plein de talent. C'est vrai que dans le cyclisme, malheureusement, chaque fois qu'on aura quelqu'un qui sera au-dessus du lot, on aura toujours la suspicion qu'il se dope par rapport aux autres. Alors, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas dopé et je trouve que c'est un très beau coureur qui mérite sa victoire et la victoire de l'année dernière. Donc, je suis un peu agacé par à chaque fois ces polémiques sur les performances de tel et tel au niveau du Tour de France. Voilà, je trouve que c'est un très beau compétiteur. Et
vous voulez y croire, en fait ? Parce que ça fait partie de la magie du Tour ?
Ah, ben oui, je veux y croire, parce que moi, le Tour de France, très clairement, je pratique pas beaucoup de vélo, mais c'est probablement l'événement sportif qui me fait le plus vibrer. Parce que je revisite la France chaque année, ou en tout cas une partie de la France. Je trouve que on a des superbes images. C'est une belle compétition sportive. Et puis le Tour de France, c'est un mythe. Donc, on se pose pas d'ailleurs la question. Est-ce que Bernard Hinault, quand il était au-dessus du lot, est-ce qu'il était dopé ? Est-ce que Eddy Merckx, quand il était au-dessus du lot, est-ce qu'il était dopé ? C'est vrai que. Voilà, moi je veux croire en l'honnêteté de Pogacar. Alors après, peut-être que je suis utopiste ou peut-être idéaliste, mais pour l'instant, on n'a pas prouvé qu'il se dopait. Donc voilà, c'est
ça n'a pas été prouvé, ça c'est clair. Voilà. Nicolas, qu'est-ce que vous en dites vous aussi ? Vous en avez marre qu'on ressorte le même débat tous les ans ou vous êtes dubitatif ?
Non, ça fait partie aujourd'hui de l'équation, mais cette équation, elle n'est pas simple parce que soit on ne dit rien, soit on ferme les yeux sur le passé, sur un passé récent. On évoquait Merckx ou Hinault, mais on a eu l'épisode Armstrong, c'est au début des années 2000, qui a changé la perception, vraiment. Donc soit on ne dit rien et on passe pour un complaisant et on est aveugle sur la situation, soit on pointe du doigt et on ne parle que de cela, et à ce moment-là on condamne sans preuve. Et donc le juste milieu n'est pas évident. Il y a la présomption d'innocence.
Vous, personnellement, Nicolas, comment vous l'avez vécu sur ce tour ?
Je crois que dans ces questions-là, avec Pogacar, il faut rester extrêmement factuel. Aujourd'hui, Pogacar, il a 22 ans. Depuis qu'il est cycliste amateur puis professionnel, il n'a jamais été mêlé personnellement, individuellement à des affaires de dopage. En revanche, et c'est ce que l'on a pointé, il a trois personnes dans son entourage, son entraîneur, le directeur sportif, le manager de la formation Émirats Arabes Unis UAE, qui ont été mêlés il y a une dizaine d'années à des affaires de dopage, parfois retentissante, dont le Suisse Mauro Gianetti, qui était à la tête de l'équipe Saunier Duval en 2008 avec Ricardo Rico, Piepoli, Cobos, qui avait été un scandale absolu. Christian Prudhomme, le patron du Tour, qui était sur notre antenne ce matin avec Stéphane Carpentier, disait qu'il n'allait pas renier des propos qu'il avait tenus dans le passé à propos de cet entourage. Très précisément, c'est à propos de ce Suisse Mauro Gianetti. Il avait dit à l'époque, en 2008, ce n'est pas un parangon de vertu. Et il ne veut pas revenir effectivement sur ce qualité qualificatif. Et donc aujourd'hui, il y a ces deux choses-là, c'est-à-dire que Pogacar individuellement, eh bien n'a rien à se reprocher au moment où on parle lundi 19 juillet, et puis que l'entourage, en revanche, a des casseroles. Ça, c'est établi,
et puis,
c'est fait.
Factuellement, il y a quand même des choses assez étranges. On voit que sa vitesse moyenne dépasse les 41 km/h, et que le seul qui a fait mieux, c'était Lance Armstrong en 2005.
Alors là, sur ces choses-là, vous savez, c'est un petit peu comme les records d'ascension. Des fois, on dit, regardez l'Alpe d'Huez, tel ou tel coureur l'a monté plus fort que Pantani, que Armstrong, que d'autres, etc. Moi, je prends beaucoup de précautions avec cela. Pourquoi ? Parce que les Tours de France sont extrêmement différents les uns des autres, notamment dans leur déroulement. Cette année, on a eu un Tour de France tout à fait particulier, avec beaucoup d'échappées, pas d'équipe qui contrôle la course. Donc, on a eu des étapes qui ont fini beaucoup plus rapidement, des allures plus élevées, et donc la moyenne est aussi à mettre en parallèle avec le déroulé et le scénario de chaque étape sur ce Tour de France, où ça a été nettement différent que par exemple les années Sky, où il y avait une équipe qui contrôlait la course, et donc il y avait une échappée, on savait qu'elle n'allait pas aller au bout, alors que là, on a quand même eu un Tour de France où il y a eu 8 coureurs qui étaient présents dans les échappées matinales qui ont gagné l'étape, et ça pèse sur la moyenne.
Oui, Arnaud.
Et oui, si je peux rajouter quelque chose, moi qui aime le cyclisme, quand je voyais Lance Armstrong, quand il gagnait ses Tours de France, c'était hallucinant. Il était capable, dans l'Alpe d'Huez ou dans la montagne, d'accélérer et de mettre tout le monde dans le vent. C'est pas tout à fait le cas de Pogacar. Alors, je suis pas en train de dire que voilà, j'ai
sur
pas
le grand bornant quand même.
Oui, mais regardez Lance Armstrong quand il démarrait, c'était phénoménal. Et là, il faisait un écart de folie sur une étape de montagne. Il était capable de gagner le tour et de mettre 5-6 minutes pas loin aux concurrents. Alors oui, bien sûr que Pogacar, il est certainement meilleur que les autres aujourd'hui. Alors après, voilà, je suis pas en train de vous dire que je suis sûr à 100% qu'il n'est pas dopé, parce que j'ai pas.
Mais personne ne peut le dire.
Fait rien, personne ne le sait. Mais je trouve que ces performances n'ont, à mon sens, rien à voir par rapport à Lance Armstrong, où là, véritablement, la suspicion, elle était plus que présente, parce qu'il était vraiment au-dessus du monde.
Nicolas.
Il y a deux aspects. Pogacar a gagné facilement ce Tour de France, c'est vrai. On pense dans les Alpes, le col de Rome, le col de la Colombière, quand il part seul à 30 km de l'arrivée. Il a gagné facilement, mais il faut aussi dire que l'adversité, la concurrence a été très faible cette année, et que donc, moi, d'un point de vue personnel, j'ai hâte à 2022 ou 2023, s'il revient sur le Tour de France, pour le voir face à un Bernal, où on pourra étalonner davantage les performances de Pogacar face à l'adversité.
Bonjour Franck.
Bonjour Christelle, bonjour tout le monde.
Bienvenue alors. On compte sur vous pour poursuivre cette conversation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Ah ben moi, je suis comme l'auditeur de tout à l'heure.
Arnaud.
Arnaud, je suis comme l'auditeur exactement, parce que j'ai regardé le tour, j'ai écouté aussi sur RTL. J'ai un double écho derrière, je sais pas si c'est moi ou.
C'est vous, paraît-il.
Ah, bon.
Que doit-il faire, donc, notre ami Franck ? Je m'adresse à Grégory Caranoni, notre réalisateur. Que doit-il faire pour ne plus avoir d'écho ? Est-ce que c'est mieux là ?
Bonjour Franck, ouais, je vais essayer d'arranger les choses ici, mon régie. Je vais faire en sorte que ça aille mieux pour vous.
Voilà.
Je me dirai si tout va bien.
Ouais, donc, non, mais Franck, là, ça va mieux. Oui, je suis comme l'auditeur. Voilà, Pogacar, pour l'instant, bon, je l'ai vu moi à Mayenne. Il a fait le contre-la-montre entre Changer et Mayenne. C'est vrai qu'il est impressionnant. Mais bon, on peut pas pour l'instant lui mettre tout sur le dos. Pour l'instant, c'est un très bon coureur. Moi, je l'aime bien parce que je l'ai vu courir. Il est jeune, c'est sûr. C'est son deuxième Tour de France, ça fera sa deuxième victoire. Mais faut arrêter de se dire, voilà, parce que monsieur a gagné deux fois le Tour de France, parce que il a gagné, je dirais, trois, il a gagné un contre-la-montre à Changer. Il a gagné deux étapes derrière aussi. Voilà. Mais le dopage, c'est sûr. On n'est pas à l'époque de l'affaire Festina, de l'affaire Armstrong. Voilà. Il faut, je pense, à l'heure actuelle, le laisser tranquille. Voilà. On verra plus tard ce que ça va
Franck,
donner.
Franck, ça ne vous gâche pas votre plaisir ?
Non, ah non, 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 moi ça me gâche pas mon plaisir. Je suis tellement content qu'à chaque fois quand j'entends parler ben, que voilà le Tour de France va démarrer telle date, voilà. Et moi je l'écoute toutes les années, je l'écoute moi le Tour de France. Mm-hmm. Ça fait des années et des années que je l'écoute, que ça soit voilà que je le regarde aussi à la télé, mais que je l'écoute toujours. Généralement je l'écoute toujours sur RTL, voilà. Et voilà, moi je suis un fanat du Tour de France comme je suis un fanat du foot, voilà. Et je suis un fanat de sportif, que ça soit n'importe quel sport. Mais
est-ce
voilà.
Restez avec nous. Est-ce que, Nicolas, vous avez senti un engouement particulier sur ce Tour de France, qu'on avait retrouvé finalement un peu le monde d'avant cette fois?
Oui, pas totalement.
Par rapport à l'édition, oui, évidemment,
bien sûr.
De l'automne qui était un peu spéciale. Hein.
L'édition de septembre 2020 était vraiment très particulière, mais il y avait à la fois un vrai plaisir d'être là parce qu'il y avait un Tour de France qui se tenait dans les conditions que l'on sait, mais vraiment un peu aseptisé. Et on a retrouvé la ferveur, l'effervescence des dernières années au bord des routes. Les premiers jours en Bretagne, il y avait une foule considérable. Alors il y a eu aussi
en Mayenne, là, du côté de chez Franck.
Oui, oui, il y avait beaucoup de monde.
Mais aussi, faut pas oublier, c'est que cette année, c'était un Tour de France qui était très très dur. Très très dur. Regardez les abandons qu'il y a eu cette année.
Oui, une quarantaine.
Les chutes qu'il y a eu, les deux premiers départs qu'il y a eu, les chutes, mais on se demande comment les coureurs ont réussi à remonter sur le vélo. C'est impressionnant. Moi, j'ai toujours dit, le premier qui gagne et le dernier qui est dernier, il a le même courage. Parce qu'il faut faire les kilomètres, il faut les faire les kilomètres. Il faut être courageux, parce qu'il faut les monter les montagnes, il faut les monter. Mmh. Les contre-la-montre, il faut les faire, les étapes, là, je crois qu'il y en a une qui était la plus grosse, c'était 249 kilomètres, il faut les faire les 249 kilomètres, rester sur la selle pendant 249 kilomètres.
Bah, voilà. Mais c'est leur vie, ça, c'est leur vie, voilà. Franck, ils sont pas comme nous.
Voilà, mais il faut pas critiquer, c'est pour ça qu'il faut pas critiquer le vélo à l'heure actuelle. Faut laisser l'affaire, faut laisser ce qui se passe à l'heure actuelle, faut laisser aller, on verra bien ce qui va se passer on dirait peut-être dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, on verra bien. Ouais. Mais pour l'instant, voilà. C'est leur gagne-pain, c'est ça qu'il faut pas oublier aussi, c'est ça aussi. Ouais. Et voilà, moi je suis fada du vélo, comme je suis fada du foot,
C'est intéressant, Franck disait c'est leur gagne-pain. Et un Pogacar gagne combien à peu près, vous savez, Nicolas?
Bah là, alors avec deux Tours de France à son actif et avec sa jeunesse, c'est-à-dire avec les sponsors aussi qui vont maintenant s'approcher de lui. Bon, déjà, d'un point de vue très basique et factuel, il y avait 500 000 euros qui revenaient au vainqueur du Tour, qui est donné par l'organisation, mais il y a aussi une bonne somme de cet argent qui revient à l'ensemble de l'équipe, mais voilà. C'est un coureur qui va être autour de peut-être 3-4 millions d'euros, voire 5 millions d'euros assez rapidement, en fonction de son contrat, oui.
Ah oui, quand même.
Un vainqueur de Tour, c'est à peu près ça. Si on essaye de faire une moyenne, ça dépend beaucoup de l'âge. Voilà, Froome, les 2-3 premières années, il est margé déjà à 5 millions et demi d'euros.
Oui, il y a ça aussi. Excusez-moi de vous couper la parole, mais il y a aussi le fait que voilà, c'est des coureurs. Bon, là après Pogacar, je ne sais pas s'il va faire le prochain tour. Je crois que, il me semble que c'est le Tour d'Espagne.
Alors Pogacar fait les Jeux Olympiques. En revanche, vu que, il pense vraiment avoir de réelles chances sur les Jeux Olympiques, donc se donner à fond sur les Jeux Olympiques. Mais ensuite, pour l'interrogation sur le Tour d'Espagne, ça avait été évoqué par son entourage d'enchaîner avec la Vuelta à mi-août, mais ce sera peut-être un petit peu juste.
Mais regardez l'équipe qu'il a aussi, il n'avait pas une équipe de grimpeurs. Ça. Il n'a pas une équipe de grimpeurs. Il n'a pas comme l'Ineos qui avait une équipe de grimpeurs. Voilà, et il gagne, je dirais qu'il gagne au forceps. Voilà, et bon, après, on verra ce que ça va donner. Voilà, et vive le vélo, comme dire l'autre.
Merci Franck. Tiens, je propose qu'on réécoute l'arrivée du Tour.
Et 600 derniers mètres, Van Aert, c'est Cavendish qui a pris la roue de Van Aert, l'effort. Van Aert en deuxième position. Il est bien lancé par Tennyson. Pour l'instant, il est dans un fauteuil. Cavendish est dans la roue de Van Aert.
Ouais, Cavendish n'y arrivera pas car. Morkov a lâché l'affaire lui aussi. Van Aert est très bien. Attention, Cavendish revient. Van Aert, Philipsen, Cavendish, Van Aert, Philipsen, Cavendish. C'est terminé pour le maillot vert. Van Aert qui va remporter l'étape. Cavendish qui est troisième. C'est lui, Van Aert, le Belge, qui remporte l'étape. Cavendish n'était pas aidé comme précédemment lors de ses quatre dernières étapes, notamment par Morkov qui parfois devait même décélérer si lui-même ne voulait pas gagner l'étape, mais l'a laissé au coureur Cavendish. Cavendish en restera à 34 succès. Et c'est donc Wout Van Aert.
Quel tandem vous formez, Christian Olivier, Nicolas?
Vous savez, Christian Olivier, 35 Tours de France.
Et vous?
Le 13. Bon. Vous voyez, il y a quand même.
Juste rapidement, oui, bah, y a, vous avez de la marge.
Quel tandem pour une épreuve de cyclisme, bah, très ouais.
Merci. Il y en a au moins un qui s'en est rendu compte. Hein. C'est un métier, monsieur. Juste une dernière chose. Quel est votre meilleur moment de ce tour?
Le meilleur moment de ce tour, la double ascension du Ventoux, ouais. Qui était spectaculaire, et notamment cette descente à plus de 100 km/h vers Malocène, qui était et avec un soleil incroyable sur le Ventoux, qui est toujours particulier, magique comme endroit, et de voir ces coureurs là qui étaient juste devant nous à descendre à plus de 90-100 km/h, c'était assez impressionnant. Oui, je garderai ça.
Merci Nicolas. C'est nouveau jingle pub, ça.
Ça me faisait plaisir pour annoncer la chanson de l'été.
Allez, on fait une petite pause. Et puis la chanson de l'été, votre chanson de l'été. Vous nous appelez tous les jours. Hein.
Les auditeurs ont la parole.
Avec Christelle Robier.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Robier.
C'est la tradition. Hein. L'été, on aime bien que vous nous parliez de votre chanson d'été préférée pour achever cette séquence avec vous. Bonjour Ingrid.
Bonjour Christelle, bonjour tout le monde.
Bienvenue. Alors, quelle est la vôtre?
Eh bien écoutez, la mienne, elle est toute nouvelle. Elle vient juste de sortir, mais elle donne une pêche d'enfer. C'est Il y a du soleil de Christophe Maé.
Eh bien on l'écoute.
Il y a du soleil qui brille encore, la cachée derrière. Il y a du soleil qui brûle encore, j'ai vu ta lumière. Donne-moi, vas-y, donne-moi un peu de joie. Ouais, c'est ça. Lâche-toi, personne n'est parfait, ne te cache pas. Non. Affiche-toi, t'es bien plus jolie quand tu triches pas. Allume-toi.
Lâche-toi, affiche-toi, allume-toi. Bah dites-moi Ingrid, sacré programme.
Ah bah écoutez, les beaux jours reviennent et puis ça met de l'ambiance quand même, hein, donc il faut en profiter.
Il y a du soleil en plus, vous avez raison, hein, parce qu'en ce moment, on en a assez peu, donc ça fait vraiment du bien. Pourquoi cette année, cet été, vous avez le sentiment que vraiment, il faut en profiter, que cette fois, il faut faire quelque chose, il ne faut pas céder à l'amorosité?
Ah, il ne faut pas céder, surtout pas, moi j'en pense... septembre pour mes vacances, donc je croise les doigts vraiment. Et j'ai la chance d'être dans un tellement beau, une tellement belle région, en plus juste au bord de l'eau, je ne me plains pas.
Oui, mais puisque vous êtes à Vannes, dans le golfe du Morbihan.
Ouais.
Vénarde.
C'est un très grand soleil.
Eh bien, on vous embrasse et puis que le soleil de Christophe Maé vous accompagne tout l'été. Merci à vous. Merci Ingrid, belle journée à vous à Vannes. Il y a du soleil, merci à Christophe Maé, ça fait du bien quand même, c'est bon pour le moral. Hein. Et puis, bah, c'est la fin de cette émission, merci de nous avoir appelés au 3210. On se retrouve demain, même lieu, même heure, à partir de 12h30, RTL Midi, et les auditeurs ont la parole. Dans un instant, les infos.
Les auditeurs ont la parole
avec Christelle Rebel.
Il est 14h. On retrouve Stéphane Genest pour les infos. Bonjour.
Bonjour Christelle, bonjour à toutes et à tous. Le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants présentés en Conseil des ministres aujourd'hui. Les mesures ne sont pas entrées en vigueur, mais elles font déjà grincer des dents. Les 17 députés de la France insoumise souhaitent saisir le Conseil constitutionnel. Ils appellent au soutien de leurs collègues d'autres groupes.